Voilà, nous allons commencer non pas par une restitution d'études, mais par la restitution de plusieurs études et un certain nombre de retours d'expérience. Ivalix, à l'instant, parlait d'un fil rouge qui allait courir sur la question du numérique, puisque plusieurs interventions sont consacrées à cette question. Nous allons commencer par donc une thématique qui porte sur les bibliothèques et la transition numérique, qui va donner lieu, comme on vient de vous l'annoncer, à la parution d'un ouvrage aux presses de l'ENSIP dans la collection papier Bibliothèque publique d'information et en ligne sur Open Book Edition, puisque c'est également notre partenaire à la BPI pour rendre public nos synthèses d'études. À la table, donc, vous avez quatre participants qui, en fait, représentent une équipe d'une douzaine d'auteurs. On va vous les présenter rapidement. Donc, je commence par Pascal Plantard, qui est sociologue, professeur à l'université Rennes 2 et qui est membre du laboratoire Le Marsouin, le bien nommé. À côté de lui, Gildas Carillo, qui vient de la médiathèque Phileas Fogg de Saint-Aubin-du-Pavail, petite médiathèque mondialement connue. On va revenir sur Saint-Aubin. Agnès Camus, qui est qui est sociologue et qui travaille au service études et recherches de la BPI et qui, avec Pascal Plantard, a coordonné cet ouvrage aux presses de l'ENSIB. Et Annie Dourlan, qui a déjà été présentée, qui est la responsable du service coopération nationale et internationale de la Bibliothèque publique d'information. Oui. Et qui représente, qui va remplacer, pourrait-on dire, Mathilde Servet, qui malheureusement n'était pas qui est malade, tout simplement. Voilà, donc il ne pouvait pas venir. Voilà. Je vous laisse la parole.
Alors, merci. Donc, j'ai un petit problème technique, justement, ça tombe bien, parce qu'on va parler de l'épaisseur de la technique. Bon. Voilà, donc, les bibliothèques et la transition numérique. Nous sommes quatre à cette tribune pour vous parler de ce livre qui va paraître à la fin du mois, sans doute, aux presses de l'ENSIB dans la collection papier et sur la plateforme, comme on vous l'a dit, Open Edition. Donc nous sommes quatre, mais nous avons été 18 auteurs. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas venir à la tribune. Je pense que certains sont dans la salle et qui pourront intervenir dans la conversation qui aura lieu. Alors ce champ, nous l'avons appelé, ce champ que nous allons explorer aujourd'hui, nous l'avons appelé la transition numérique. C'était un champ qui nous paraissait important à explorer. Pourquoi ? Eh bien, il faut revenir, me semble-t-il, sur cette phrase que je vous propose d'Olivier Donat. La puissance des discours ayant accompagné la diffusion d'Internet est telle qu'elle perturbe incontestablement notre perception de la réalité. Parce qu'en effet, les discours sur le monde contemporain hyper connecté, on est baigné dedans, on les connaît bien. Ça renvoie à une certaine réalité. En effet, nous circulons dans des arènes interconnectées, qu'il s'agisse de trouver du travail, de s'inscrire à l'université, d'écouter une émission de radio, on en passe par les réseaux numériques. Il y a aussi une autre réalité qui est moins visible, qui n'apparaît pas moins visible parce qu'elle n'est pas portée par ces discours, par les discours qui nous entourent, dans lesquels nous sommes baignés, c'est l'épaisseur de la technique. Alors, qu'est-ce que l'épaisseur de la technique ? Eh bien, c'est ce qu'on perçoit au quotidien, le réel, c'est ce qui résiste, ça plante. On ne peut pas télécharger ce dont on aurait justement besoin absolument. Il y a un formulaire administratif qu'on ne peut pas remplir. Et c'était crucial de pouvoir le faire aujourd'hui même. Voilà. Donc, finalement, cette épaisseur de la technique, qu'on peut aussi appeler le réel de la technique, il y a un film qui en donne une bonne idée, c'est le film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake. Alors là, c'est évidemment des conditions tout à fait tragiques, puisque lui, ce Daniel Blake, il est menacé, il voit sa citoyenneté, sa vie même menacée par cette épaisseur de la technique. Alors, bon, évidemment, heureusement, il n'y a pas cette dimension tragique pour chacun, mais chacun expérimente à sa façon que l'usage ne colle pas à l'image. Et pourtant, il y a un enjeu énorme, hein, du fait que nos sociétés ont pris ce que Michel Viviorcal, un sociologue que vous connaissez peut-être, appelle le tournant anthropologique, un tournant anthropologique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement avec ces outils de technique, mais de façon de penser, de façon de faire, et il y a une transformation qui touche nos manières de faire société. Alors, quelques données sociologiques, justement, pour ne pas en s'en tenir seulement au registre de l'expérience, quelques chiffres qui vont dans le sens de cette opacité, de cette épaisseur de la technique, des données produites par le CREDOC en 2013 qui montraient que 44% des personnes ne se sentent pas compétentes pour utiliser l'ordinateur, que 20% d'entre elles se sentent très incompétentes. Il y a donc cette dimension de la société numérique sur laquelle on souhaitait faire un focus, braquer un éclairage particulier, la transition numérique. Donc c'est cette multitude d'opérations invisibles qui n'apparaissent pas dans les discours, mais qui sont éprouvées dans l'expérience ordinaire. Et dans cette transition numérique, il nous semblait intéressant d'interroger la place des bibliothèques en France et à l'étranger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée ? La genèse c'est partie de deux études qui ont été menées à la BPI. La première, d'octobre 2012 à mars 2013, que j'ai menée moi-même, qui accompagnait la mise en place d'une première génération d'ateliers numériques avec une permanence qui était mise en place par Lorenzo Weiss, qui s'appelait donc la permanence s'appelait Déclic informatique. Et puis en janvier 2014, il y a eu une seconde génération d'ateliers internet qui ont été mis en place dans le cadre du programme d'Elite, un programme européen de formation au numérique qui s'appelait Digital Literacy d'Elite 2.0. Et c'est une stagiaire dans le service, Anaïs Crinière-Boyzet, qui a réalisé une deuxième étude. Et puis, il y avait aussi les travaux importants que l'on connaît de Pascal Plantard sur la fracture numérique dans le cadre du Marsouin et à l'université Rennes 2. Alors, que nous disent ces enquêtes ? Alors, je précise que ce sont des enquêtes qualitatives qui permettent donc de donner du poids à la parole des usagers, et ça permet justement d'aborder cette réalité concrète des choses, cette réalité concrète de l'expérience. Alors, que nous disent ces enquêtes ? Eh bien, il y a une première thématique qui est récurrente, que vous pouvez voir à travers les verbatims. Je vous propose quelques verbatims là, qui sont marquants par rapport, enfin, qui indiquent bien la teneur de ce qu'on a pu recueillir. Eh bien, première thématique récurrente, c'est un souci de rester connecté, alors qui se décline différemment en fonction du contexte vécu par la personne, mais qu'elle soit retraitée, chercheur d'emploi, femme au foyer, étudiant, il y a une nécessité ressentie par les usagers des ateliers Internet de rester en prise avec la société des technologies de l'information et de la communication. Bon, cette notion de rester en prise est très importante. Deuxième thématique, en même temps, eh bien, une inquiétude. Je trouve qu'il y a un danger. Je m'oblige parce que le système m'oblige. Donc, il y a un vocabulaire qui est lié au champ sémantique de la peur, de l'inquiétude extrême et de l'injonction sociale. Troisième verbatim, je n'ai pas envie de rester comme ça, comme une illettrée, ça pèse lourd sur les épaules. Donc là, on voit qu'apparaît encore une nouvelle dimension, une dimension de la stigmatisation. Cette personne se donne une valeur négative, hein, parce que justement, elle n'est pas capable d'utiliser ses outils. Ça va au-delà de la question de l'utilisation, c'est en rapport avec la perception de soi. Donc à partir de ces deux études, est né ce projet d'ouvrage donnant la parole à un certain nombre de professionnels qui animent des ateliers dans les bibliothèques pour qu'ils puissent dire ce qui s'y joue côté usager, mais aussi côté professionnel, parce qu'il y a un gros travail à mettre en place avec les professionnels des bibliothèques. Alors, ce qu'ils montrent, c'est que du côté des usagers, les ateliers Internet sont des lieux où on cherche à la fois à faire face aux injonctions sociales, de cette société de l'information, et en même temps, il y a quand même un versant positif, c'est-à-dire qu'on acquiert des savoir-faire et on peut se ressaisir comme des individus compétents, intégrés et reconnus. Du point de vue des professionnels, eh bien, ils nous font part de leurs interrogations, mais aussi des solutions qu'ils cherchent à mettre en place pour accompagner les pratiques numériques. Tout au long de l'ouvrage, il y a des réflexions comme ça sur ce que doivent être les formations pour les professionnels. Alors, donc, le projet collectif, donc je vous présente maintenant assez rapidement de quelle façon l'ouvrage a été conçu. Hein. Il a été conçu comme un panorama de ce qui se pratique dans différents ateliers en France et à l'étranger aussi, parce qu'il y a une dimension tout à fait éclairante de la façon dont des bibliothèques à l'étranger, à Malmö, à Helsinki, à Cologne, ont pu se saisir de cette problématique de la transition numérique. Première partie, donc la fracture numérique revisitée, et qui s'appelle, donc on a précisé, des lignes de fracture plurielles, c'est-à-dire que donc ça s'inspire des travaux de Pascal Plantard. Il y a un chapitre de Pascal, écrit par Pascal Plantard, qui parle justement de l'évolution de la problématique de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fracture numérique avec une frontière qui séparerait ceux qui savent de ceux qui ne savent pas, mais il y a des frontières, il y a des brisures finalement plurielles qui touchent les gens, les usages des personnes, à la fois dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Hein, c'est cette problématique. Et dans cette première partie, il y a aussi donc un chapitre qui a été écrit par Anaïs Boisé-Crinière et moi-même, avec Vanessa Desroins et Françoise Hureau, qui doit être dans la salle, je pense, qui fait état de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette dimension d'injonction et de stigmatisation que l'on peut rencontrer dans son utilisation des outils numériques. Deuxième partie, un parcours de médiation de la bureautique au Fab Lab, donc c'est les retours d'expérience de nos collègues dans les ateliers numériques en France. Et troisième partie, carnet de voyage, donc des ateliers Internet en Allemagne et en Suède et en Finlande. Cette partie comprend également un chapitre sur la politique numérique dans les bibliothèques américaines. Donc voilà le sommaire, je passe assez rapidement, donc cette première partie dont je vous ai parlé. Donc deuxième partie, ça commence par un travail sur Saint-Aubin-du-Pavail, donc par Gildas Carillo, dont je ne vais pas présenter parce que Gildas Carillo va vous en parler lui-même, il est là. Deuxième chapitre de Julien Devrient, donc, qui parle de l'évolution finalement de la façon dont il a conçu son travail de médiateur, partant d'une problématique de formation, il en arrive à une problématique d'accompagnement, c'est-à-dire vraiment se loger dans les pratiques des usagers, mais aussi des professionnels qui l'accompagnent, ce qui permet de faire un pas de côté par rapport à la dimension injonctive justement et normative. Troisième chapitre, Julien Dufetel et Fabrice Chambon qui ont noué un partenariat, donc qui ont travaillé à la bibliothèque de Montreuil et qui ont noué un partenariat avec Bibliothèques sans frontières pour mettre en place des ateliers de codage dans la bibliothèque. Ils décrivent ça comme un défi d'alphabétisation numérique ayant touché plus de 1500 personnes en 6 mois, adultes, adolescents, enfants. Donc c'est vraiment un programme qui a été mis en place dans une perspective d'éducation populaire, d'émancipation et de transformation sociale. Ensuite, 2 chapitres sur le travail accompli dans les bibliothèques parisiennes, à Vaclav Havel, la bibliothèque de Vaclav Havel, par Lola Mortin, qui montre qui dégage un concept intéressant de bibliothèque facilitateur. Et puis Fabienne Lehin à la médiathèque Marguerite Duras. Enfin, cette partie sur les parcours de médiation se conclut par un chapitre rédigé par Fanny Bowie, qui indique la dynamique qui a été mise au service de l'inclusion numérique en Seine-Saint-Denis, avec un concept très intéressant aussi de référent numérique, qui cible les problèmes, les besoins à la fois des usagers et des professionnels. Il y a toujours ce double aspect qui est très important. Donc la dernière partie, carnet de voyage, je n'en parle pas parce que Annie Dourlan, qui a eu la gentillesse de bien vouloir remplacer Mathilde Servet au pied levé, va vous en dire un mot. Et puis, dernière partie, la conclusion qui nous sera donnée par Pascal Plantard et qui prendra la parole tout à l'heure. Voilà. Donc je donne la parole tout de suite à Gildas Cario.
Bonjour. Donc Gildas Cario, donc d'abord je remercie la BPI de m'accueillir et tout particulièrement Agnès Viguet-Camus et Pascal Plantard d'avoir fait participer à cet ouvrage sur les bibliothèques et la transition numérique. Donc je relate en fait dans ce livre moi les 10 ans d'expérience que j'ai avec le numérique à la médiathèque Phileas Fogg de Saint-Thomas-du-Pavail. Saint-Thomas-du-Pavail, c'est un petit village breton qu'alors, à l'époque, on était 700 et quelques, nous dépassons les 800 habitants maintenant. Attention, on est à 15-20 km de Rennes. Et j'ai tenu à que, dans le titre, Agnès précise « entre ville et campagne », simplement parce qu'on colle vite fait l'image de Saint-Thomas-du-Pavail sur une image de ruralité, de pure campagne. C'est pas vraiment vrai. On est quand même assez près de la deuxième couronne rennaise qui, comme toutes les grandes villes, vous connaissez là, sur Paris, s'étale. Et donc, du coup, on est une commune, heureusement, pas une cité dortoir, une commune assez dynamique, mais où la population n'est pas du tout vieillissante. C'est une population assez jeune et qui travaille essentiellement sur Rennes. Voilà, donc c'était important pour moi de le préciser. Donc durant ces 10 dernières années d'expérience, j'ai eu la chance donc de connaître l'ancienne médiathèque du village à partir de 2006, qui était les médiathèques classiques, on va dire même bibliothèques, on appelait ça à l'époque, donc dans un petit local inaccessible avec un escalier où il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. C'est toujours la même chose qu'on raconte, hein, mais c'est ça dans les petites communes. Mais qui était déjà équipé. Moi, quand je suis arrivé en 2006, ça faisait un an que c'était déjà équipé en informatique. Donc, il y avait quand même, donc pour l'époque, donc 700 et quelques habitants, il y avait quand même 4 postes en utilisation libre, une connexion, donc connexion Internet. À l'époque, on avait encore les webcams, les trucs qu'on met sur l'ordi, là, comme ça. Et donc, c'était déjà beaucoup. Et donc, j'ai eu la chance de connaître et de travailler sur la création et l'élaboration de la médiathèque Phileas Fogg actuelle. Qui a ouvert en 2011 et qui a gardé cette même logique d'équipement, bien sûr accrue. On est à maintenant 6 postes informatiques en utilisation libre avec des tablettes, des consoles de jeux vidéo, connexion Wi-Fi, j'en oublie sûrement. Voilà. Agnès me disait tout à l'heure aussi d'insister un petit peu sur la dimension du bénévolat. C'est vrai que dans les petites communes et dans les moyennes communes, je pense, mais là je parle que pour mon expérience, moi je suis le seul salarié à plein temps dans la commune et je suis en fait entouré de, cette année on en oscille entre 22 et 23 bénévoles. C'est extrêmement important, c'est aussi lié à la dimension numérique puisque dans les bénévoles, on a une moyenne d'âge de 40 ans, 90% sont des actifs. Donc, c'est des gens qui sont en phase avec l'outil numérique. Et pour tout vous dire, dernièrement, par exemple, on a changé nos systèmes de planning pour les bénévoles, puisque, par exemple, quand je suis ici, là, je suis actuellement remplacé par les bénévoles. C'est une bénévole qui a mis en place les plannings en ligne sur Google Doc et qui s'est chargée de former d'autres bénévoles, soit à créer une adresse Gmail, ensuite à utiliser le planning en ligne, etc. Donc, voilà pour ce point. Donc, en tout cas, dans la partie que j'ai rédigée avec Agnès dans cet ouvrage, j'essaye de relater...
C'est un entretien, donc c'est pour ça.
Oui, c'est sous forme d'un entretien d'interview, ça fait un peu pompeux, interview réécrit avant que ça soit lisible, parce que je ne suis pas vraiment un théoricien, je suis plutôt dans la pratique, donc j'ai tendance, comme je vais peut-être le faire ce matin, à digresser sans arrêt. Et donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu qu'on recentre à chaque fois pour que la lecture soit quand même agréable. Donc c'est surtout, vous verrez si quand vous lirez l'ouvrage, c'est surtout une vertu de témoignage avec des petites pointes d'analyse très modestes. Et donc ce que je voulais dire, c'est que durant ces années, en tout cas, j'ai pu assister de mon arrivée en 2006 jusqu'à aujourd'hui à vraiment une ascension fulgurante au niveau des outils, nouvelles technologies et des pratiques. Je ne vais pas m'étaler ce matin dessus, mais en gros, quand j'ai accueilli les premiers ados, quand je suis arrivé moi à Saint-Aubin, les enfants qui venaient pianoter sur les ordis, c'était aussi les débuts, on était dans le chat sur MSN, on était sur la création des premiers blogs, on était sur les toutes prémices de la réalité augmentée. Des choses comme ça, et aujourd'hui je vois les mêmes enfants qui sont devenus de jeunes adultes, et moi qui ai plus de cheveux blancs, qui aujourd'hui sont ultra connectés, hein, les mêmes que j'ai vus, qui sont aujourd'hui sur leur tablette, leur smartphone, sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà. Donc en 10 ans en tout cas, même si ma pratique numérique a commencé bien avant, c'est assez phénoménal. Moi-même j'ai toujours travaillé avec ces outils. Non que je sois un geek ni un passionné, peut-être que Pascal est plus que moi, mais en tout cas pour moi ces outils sont extrêmement importants et utiles pour valoriser des pratiques dans la médiathèque, hein, pour communiquer, pour travailler, pour créer, etc. Parce que à Saint-Thomas-du-Pavail on a essayé de développer une médiathèque participative très axée sur la création et la créativité, et donc ce on espère, génératrice vraiment de liens sociaux. En tout cas, moi, c'est une valeur à laquelle je suis attaché, à travailler, que vous connaissez sûrement. Je pense aussi à, je ne les connais pas encore, mais à notre grande sœur parisienne, Louise Michel. Je sais pas, il y a peut-être des gens dans la salle qui travaillent, je ne connais pas les salariés là-bas, mais on a des acquaintances avec eux. Et puis moi-même, durant mon parcours professionnel, en fait, ce n'est pas moi. Des travaux à la BPI. Ma pratique a toujours mêlé. Mon parcours professionnel, en fait, c'est une succession de pratiques qui oscillent entre la pédagogie Freinet. J'ai été animateur multimédia aussi pendant plusieurs années. J'ai été dans la création plastique, dans la création graphique. J'ai aussi fait de la formation professionnelle. Donc tout ça, ça a été moi toujours en arrière-plan, évidemment. J'ai toujours travaillé avec les outils numériques, et donc j'ai eu une de cesse à la médiathèque de l'inclure dans les pratiques quotidiennes de la médiathèque. Autant je réinsiste dessus sur les pratiques liées avec les bénévoles, donc j'ai été aidé à se former pour certains aussi m'ont formé sur d'autres outils, vu que c'est très très large la palette du numérique, et puis aussi évidemment bien évidemment avec les usagers. Donc je reprends le fil, excusez-moi, parce que vous le considérez. Alors, pour un gars qui parle de numérique, je prends des notes manuscrites. Hein. Je ne suis pas avec ma tablette, etc. Donc, il faut que je me reprenne dans mon papier. Alors, et donc, pour balayer grossièrement ce que j'ai rédigé dans l'ouvrage, en 10 ans, moi, j'ai pu côtoyer à Saint-Thomas-du-Pavail l'exclusion numérique. On pourra y revenir si vous voulez. Aussi, le décalage numérique entre générations. Évidemment, des demandes continuelles d'aide sur les pratiques numériques, donc en demandant des ateliers d'initiation et aussi de formation, parce qu'il y a des termes ambivalents, on nous demandait de faire de l'initiation en médiathèque ou aussi en espace multimédia, mais qui virent souvent, Pascal, je ne sais pas si pour en parler, mais qui virent souvent à de la formation, bon, bref, mais on n'était pas chargé de dire qu'on ait fait de la formation pour des histoires de concurrence avec les institutions privées, bien sûr. J'ai aussi pu vivre de grands moments de créativité numérique. On a pu sortir de très très belles choses avec les gens. Et puis aussi, plus globalement, pour faire écho à des critiques qu'on nous dit nous souvent à Saint-Aubin, oh là là, il y a plein d'ordi, plein de jeux vidéo, les jeunes vont être rivés sur les écrans, ils ne vont plus communiquer. Ben non, on vit nous vraiment avec eux même des vrais moments de partage, de convivialité et de connaissances et de partage de connaissances. Je pense à il y a encore quelques jours à des ados qui nous faisaient découvrir une vidéo de youtubeur super que vous avez peut-être vu sur relatif à ce qu'on vit actuellement sur les élections, et par la bande de l'Hollywood qui a fait une vidéo qui s'appelle l'élection des délégués de classe, voilà. Bon, je ne connaissais pas, c'est les ados qui m'ont fait découvrir ça. Et puis aussi des instants de transversalité entre la culture de l'imprimé et la culture du numérique, où c'est vraiment pas indissociable. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait la grande peur dans les bibliothèques du livre numérique, ça y est, les livres c'est fini, etc. Donc, moi j'en ai jamais eu peur et ça s'est jamais passé comme ça à la médiathèque. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Voilà, je vais peut-être demander aussi à lancer le diaporama.
Mais oui, j'étais en train de m'en occuper justement. Voilà.
Peux meubler.
Je ne sais pas comment le lancer depuis ici. D'accord.
Voilà, ça va comme ça va vous imager un peu le lieu où je travaille.
Non, ça n'image pas pour l'instant.
D'accord.
Tu as eu raison de rester sur.
Voilà.
Le parchemin.
Donc. Le temps que la technique cale mon petit... En plus, c'est un petit diaporama, hein, il est très modeste.
Oui.
Donc, pour vous parler aussi d'anecdotes plus rigolotes ou moins rigolotes que j'ai vécues aussi sur ces 10 années à Saint-Aubin, liées au numérique. Alors, ça passe par d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques années d'un monsieur qui sortait d'incarcération, qui a atterri à Saint-Aubin, je ne sais pas évidemment pour quelle raison, et qui avait absolument besoin d'une connexion Internet, puisqu'il était sorti dans la journée, et donc il n'avait pas de domicile, il n'avait plus d'attache, et donc il lui fallait absolument une connexion Internet, une aide à côté aussi, pour qu'il ait accès à des formalités administratives, et aussi à des recherches liées à pratico-pratique. Hein. Ça va aussi de l'expérience... Ça a déjà commencé, j'y reviendrai après. Donc, je finis sur les témoignages d'une mamie de 84 ans qui tenait absolument à être formée aux outils numériques parce qu'elle n'en pouvait plus d'être dépendante de ses enfants pour effectuer des démarches administratives, donc relatives, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à l'exclusion numérique. Alors, ça va de choses plus rigolotes. Hein, un petit garçon de 3 ans qui avait ouvert aussi les lecteurs CD de l'ordi pour mettre son BN dedans, ce qui a occasionné des petits soucis après. D'une autre dame avec laquelle on a suivi, on lui a donné des initiations à Internet en bureautique et qui voulait absolument faire des recherches je sais qu'il va y avoir le thème de la cuisine, pour pouvoir imprimer des recettes de cuisine, voire les taper elle-même. Et donc, du coup, après avoir été formée, elle est revenue la semaine d'après avec des pâtisseries toutes chaudes qu'elle a offertes à tout le monde à la médiathèque. Voilà le genre de chouette moment qu'on vit dans les bibliothèques. Et puis, une expérience liée à un jeune stagiaire que j'ai eu il y a quelques années, qui est arrivé avec Pôle emploi, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre de stage, où quand les jeunes sont un peu perdus et pour un peu découvrir un métier, qui venait là pour quelques jours, qui ne connaissait pas du tout le milieu de la lecture publique, et qui s'est passionné pour l'animation multimédia, et donc qui a fini par s'inscrire à la fac dans la formation animateur TIC. Technologie, l'information de la communication, et donc qui a passé ce diplôme, qui est revenu faire tous ses stages à Saint-Aubin et qui maintenant travaille dans une autre commune en tant qu'animateur multimédia. Et ça, personnellement, j'en suis très fier, de voir ce genre de parcours comme ça éclore chez nous. Alors, pour vous parler, j'essaye toujours de faire des diaporamas qui endorment pas les gens, donc pas trop de chiffres, beaucoup d'images. La Xbox qui côtoie un autre atelier géré par une bénévole de loisirs créatifs, c'est compatible. C'est souvent aussi ce que les élus avaient très peur de ça au début, c'est oh, ça va mettre le bordel, il y aura trop de bruit, etc., etc. Pas du tout, ils arrivent à très bien travailler ensemble et à pratiquer ensemble. Quand on laisse loisir aux gens de se respecter entre eux, ça peut marcher, mais il faut leur laisser l'opportunité. Alors, il est tout petit.
Voilà.
Comment on peut réattirer les ados, même si moi, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais je cours pas après les adolescents, parce que dans un village de 800 habitants, venir à la médiathèque, c'est rencontrer ses parents, c'est rencontrer les potes de ses parents, donc c'est pas vraiment le lieu où ils aiment aller. Par contre, ils sont dans le porche devant la médiathèque, c'est bien. Mais par contre, quand on fait une compétition FIFA sur Xbox, là, tout de suite, ils viennent. Ça, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour vous montrer, c'est les usages vraiment classiques chez nous. Ça, voilà, la photo de gauche illustre vraiment bien. Alors là, il n'y a pas de jeunes avec des livres. J'ai d'autres photos comme ça, mais souvent, ils sont vraiment mélangés entre celui qui a la DS, celui qui a une tablette, celui qui a une BD, celui qui mange son goûter, etc. Et puis à droite, pour les plus petits, là, c'était des CD-ROM qui fonctionnent encore, mais ça y est, c'est en perdition. Hein. Le CD-ROM, tendance, c'est fini maintenant, hein, c'est ce qui est. Voilà. Nous, je pense que c'est à l'image de ceux qui ont des enfants de cet âge-là, ce qui est aussi mon cas pour mon aîné, c'est que sur la préadolescence, maintenant, c'est essentiellement non pas les réseaux sociaux, mais surtout YouTube, énormément YouTube. Le partage de la console aussi, de la DS. Alors, c'est évidemment, elles sont prêtables uniquement sur place, hein. Et l'avantage d'être une petite médiathèque en coin du monde, c'est qu'on n'a pas de sécurité sur les tablettes avec des fils. Là. On est vraiment attaché au support. Là, ils peuvent se balader partout avec.
Continue aussi. Continue. Ouais, ouais.
Ah oui, ouais, pardon. Voilà, ben, voilà. Et l'avantage d'avoir une bibliothèque avec un cadre vraiment idéal autour, c'est qu'on peut même se connecter en extérieur. Quand le temps le permet. C'est pas nous qui nous. Aujourd'hui, on n'a pas ramené la pluie avec Pascal en Bretagne. Il faisait très beau chez nous aussi hier.
Donc c'est 300 voilà. jours par an.
Ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Bon, bronze, voilà. Voilà un atelier drone qu'on a fait dernièrement avec un professionnel. Et puis pour finir, genre d'atelier découverte. Alors là, avec le second assistant réalisateur donc de Ma Vie de Courgette, qui a pu faire une démonstration en temps réel d'animation image par image avec les enfants. Et du coup les enfants nous reviennent après et c'est ça qui favorise, quand je vous parlais de créativité dans la médiathèque, voilà genre d'atelier de rencontre qui après nous permet de rebondir et de créer plein de choses avec, le public. Voilà, je crois que je suis au bout de mon temps. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Gildas. Donc je vais tout de suite te donner la parole à Annie Dourlan qui va nous parler de ce que les bibliothèques à l'étranger ont d'innovant dans cette question, apporté d'innovant dans cette question de la transition numérique.
Alors, en préliminaire, je voudrais tout d'abord vous demander un peu d'indulgence, parce que j'ai appris hier à 4h de l'après-midi que j'essaierai de parler un petit peu de ces exemples étrangers, donc rendre à Mathilde aussi ce qu'elle avait préparé, c'est-à-dire un PowerPoint qui détaille vraiment, qui est une très bonne introduction à la lecture que vous ne manquerez pas de faire des trois articles sur ces trois bibliothèques étrangères. Et donc ce PowerPoint, on le mettra bien sûr, comme tout le reste de la journée d'études, à disposition sur le site BPI Pro, BPI pour les professionnels, dans la rubrique journée d'études. Voilà. Donc je n'ai pas repris le PowerPoint de Mathilde qui était très complet, et donc j'ai essayé d'extraire, à partir de l'analyse qu'elle avait faite quand même des grandes thématiques, des éléments essentiels qui vont complètement renvoyer à l'intervention de Gildas Carillo. Je voudrais tout d'abord dire que ce qui est intéressant, déjà, en soi, c'est que nos trois exemples sont Helsinki, Malmö et Cologne, donc trois très grandes villes, et je trouve tout à fait significatif qu'on retrouve finalement tout ce que vient de nous dire Gildas Carillo. Dans une petite commune de 800 habitants en Ille-et-Vilaine, on va retrouver les mêmes grandes tendances et les mêmes fondamentaux dans ces trois grandes villes. Je voudrais préciser aussi, juste pour la forme, que je vais surtout moi m'appuyer sur l'exemple de Malmö et de Cologne, qui sont les deux. C'est moi qui ai conduit l'interview avec Anne-Laure Vogt, la directrice de Cologne, et j'étais en contact avec Malmö. Donc ce sont les deux exemples que je connais le mieux. Mais vous trouverez dans le PowerPoint de Mathilde, ainsi que dans l'enregistrement d'une intervention de la personne qui est interviewée pour Helsinki, Lotta Murinen, qui était intervenue dans une journée d'études sur les espaces émergents. Alors, la première chose à dire, c'est que cette question de la transition numérique, pour les trois bibliothèques qui sont étudiées, pour lesquelles on a fait un éclairage sur le numérique, dans les trois cas, ces trois bibliothèques resituent complètement cette transition numérique dans le rôle des bibliothèques dans la cité. J'en profite pour citer le titre de notre cycle qui nous est cher sur cette question. C'est-à-dire que la transition numérique, ce n'est pas en soi pour faire du numérique, c'est parce que ça fait partie du rôle fondamental des bibliothèques de donner accès à l'information et à la culture à tous et de permettre aux gens, à travers cette acquisition de compétences et cet accès, à exercer pleinement leur citoyenneté, à rester en prise avec la société, comme l'a dit Agnès. Donc ça, c'est vraiment important et les trois bibliothèques nous ont dit ça. Ce n'est pas seulement la question du numérique et d'être à la mode et de parler aux geeks, c'est vraiment une question fondamentale pour les bibliothèques. Le deuxième fondamental vraiment qui revient partout, c'est qu'on positionne l'usager au centre de nos missions. Ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'appréhender, mais en discutant avec lui, pas en théorisant sur ce que l'usager idéal doit être, quels sont ses besoins. On essaye de le rendre autonome et on essaye d'utiliser... Enfin, c'est pas bien dit parce que c'est même pas utiliser les compétences, c'est dans un dialogue on va se retrouver en position de donner aux usagers le moyen de faire profiter de leurs compétences aux autres. Donc vous voyez, c'est pas le bibliothécaire qui décrète, c'est vraiment dans un échange qui se fait de manière permanente. Alors ça veut dire qu'on utilise dans ces bibliothèques de nouveaux modes de communication et d'organisation avec les publics. Je voudrais ne pas oublier, parce qu'il y aura une intervention là-dessus aussi, dans les trois cas, les réseaux sociaux jouent une grande importance dans ce dialogue avec les usagers, mais il y aura une intervention sur cette question, donc je ne reviens pas là-dessus. J'ai écrit, moi, à partir de ce que Mathilde avait extrait, puis des deux articles sur lesquels j'avais travaillé, le public prend la main. On laisse le public prendre la main. Voilà. Le public, il peut intervenir dans la bibliothèque. Il est partie prenante du travail qui se fait à la bibliothèque. Et ça renvoie à la question que Gildas a évoquée avec le bénévolat. Alors ici en France, le bénévolat, bon d'accord, on accepte hein, pour les petites bibliothèques, on comprend bien, dans des villages de 800 habitants, où il y a seulement un employé, quelqu'un rémunéré, on est bien obligé, entre guillemets, de faire appel à des bénévoles. Et moi j'ai travaillé 18 ans en BDP, donc j'ai pas mal travaillé avec des bénévoles et on en a formé beaucoup, beaucoup. Et juste en clin d'œil, c'était la BDP d'Ille-et-Vilaine. Et donc, moi, je connaissais que la petite bibliothèque à l'étage de la mairie où il y avait des ordinateurs grâce à la subvention du Conseil général. Ouais. Et c'était d'ailleurs une question à l'époque. Les conseillers généraux nous disaient, mais vous mettez des ordinateurs dans les bibliothèques, est-ce qu'ils sont utilisés? Et ces bibliothèques qui n'ouvrent quelques heures par semaine, ce qui était le cas de Saint-Aubin. Mais après, voilà, un des résultats, c'est aussi ça. Alors, excusez-moi, je m'égarais. Mais donc, cette question du bénévolat, dans les trois bibliothèques, elle ne se pose plus comme ça. Parce qu'à partir du moment où on part du principe que l'usager peut intervenir et l'usager peut faire bénéficier d'autres usagers de ses compétences, on n'est plus dans une question de est-ce qu'il y a des salariés ou est-ce qu'il y a des bénévoles et est-ce que ce n'est pas bien de faire intervenir des bénévoles parce qu'on devrait être, les tutelles devraient financer suffisamment de postes pour qu'on n'ait pas besoin de faire intervenir des bénévoles. La question, elle n'est pas du tout posée en ces termes. Elle est vraiment dans un échange permanent entre les salariés, des gens qui interviennent bénévolement et des partenaires. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, à Cologne, pour revenir à cette question du bénévolat, ils font beaucoup appel à ce qu'ils appellent des experts juniors. Ils repèrent dans les ateliers, ils ont une imprimante 3D, ils ont un petit, il n'est pas par rapport à celui d'Helsinki, il n'est vraiment pas important, mais il y a quand même un makerspace avec des outils, donc, ou un Fab Lab, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et donc, ils repèrent dans ces ateliers des gens qui ont des compétences, et ces gens peuvent parfois devenir eux-mêmes, soit dans du... dans un échange individuel, soit dans des ateliers, ils peuvent devenir des animateurs à leur tour. Donc voilà, c'est une question qui me paraît importante. Je voudrais vraiment la signaler. Et puisque Agnès a parlé de Daniel Blake, il y a une scène terrible dans Moi, Daniel Blake. C'est lorsque Daniel Blake va à la bibliothèque pour remplir un formulaire sur Internet. Il ne s'en sort pas. Et la bibliothécaire, je ne sais plus comment elle fait, mais en gros, elle élude, quoi. Et c'est un usager qui vient l'accompagner. Oui, je me suis dit, c'est pas terrible pour les bibliothèques, mais bon, voilà. Donc, puisqu'on a ces questions, donc ce sont des nouvelles formes de pédagogie qui sont mises en œuvre. Et donc, par exemple, Malmö, vous verrez, parce que je suis sûre que vous allez lire l'article, qu'il y a toutes sortes de formes qui sont mises en œuvre, y compris des cours classiques. Frédéric Carlson dit, on voit que par moment, il faut aussi des cours classiques. Donc, ils appellent ça mégaphone parce qu'ils font des annonces dans la bibliothèque. Ils annoncent des cours et les gens peuvent venir à des cours. Là, c'est vraiment des cours. Après, il y a des ateliers en petits groupes. Après, il y a de l'apprentissage en tête-à-tête. Il peut y avoir des rendez-vous avec un bibliothécaire. Et puis, il y a du pair-à-pair, je crois. Peer-to-peer, oui. Mais du coup, en français, je ne sais pas comment on dit. Apprentissage entre pairs, voilà. Il y a aussi, ils vont par exemple jusqu'à faire, ils ont un atelier d'enregistrement d'histoires. Des gens viennent créer des histoires, certaines viennent écrire des livres numériques avec l'aide de la bibliothèque. Et par exemple, ça se lie aussi pour eux à tout le travail qu'ils ont fait avec les migrants. Voilà. Cologne a aussi ouvert un espace spécialement pour les migrants à Cologne avec l'arrivée massive des migrants en Allemagne. Et donc, dans cet espace, il y a du numérique, mais il n'y a pas seulement du numérique. Donc, j'insiste sur ces dynamiques de collaboration, donc avec le public, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Ça, c'est vrai dans tous les cas. Le projet de Learning Center, parce qu'il l'appelle comme ça, de Malmö, a démarré par une collaboration entre le service éducatif de la ville et la bibliothèque. Et l'objectif était vraiment que la bibliothèque se mette à la disposition des organismes de formation aussi, qu'elle vienne en accompagnement des organismes de formation sur Malmö. Quant à Cologne, ils sont sans arrêt en recherche de partenaires. À travers les événements qu'ils organisent, ils ont des événements qu'ils organisent qui s'appellent Geeks at Cologne. Et là, ils repèrent des gens qui ont des compétences numériques qu'ils sollicitent ensuite. Ils prêtent les locaux, enfin mettent à disposition les locaux gratuitement. Donc juste avant qu'on fasse interview, il y avait eu un événement qui s'appelait Science Slam, c'est-à-dire c'est des petites interventions de 5-10 minutes sur des sujets scientifiques. Hein. Et il y a eu 250 personnes qui sont venues participer. Voilà, vraiment c'est l'idée que la bibliothèque elle est ouverte et elle met à disposition ses locaux. Alors un point très important qui sera peut-être souligné après, puis je vais aller vite parce que Agnès m'a déjà fait passer ce petit papier, voilà, c'est qu'il faut absolument travailler la formation des équipes. Et juste un exemple, à Cologne, ils ont fait par exemple un petit atelier pour que les gens qui ont tous des smartphones, etc., il y a eu un atelier d'abord pour les bibliothécaires, pour les personnels, pour qu'ils apprennent eux-mêmes à bien se servir de leurs outils. Et après, ils ont pu passer à une médiation. Anne-Laure Vogt insiste beaucoup sur le fait qu'il faut commencer petit. Et si ça marche, on développe. Et si ça ne marche pas, on arrête. Et puis, ce n'est pas grave. On a le droit à l'erreur. Et on a d'autant plus le droit à l'erreur qu'on a commencé vite. Il faut démarrer vite. On a le droit à l'erreur quand on démarre vite. Donc, quand il arrive quelque chose de nouveau, la bibliothèque se branche tout de suite, elle essaye. Et si ça ne marche pas, elle dit le public ne nous en veut pas parce qu'ils ont conscience qu'on essaye, qu'on est toujours en mouvement. Voilà. Alors, je vais conclure, puisqu'il le faut, avec les recommandations de Fredrik Karlsson de Malmö sur les clés de la réussite. Dialoguer avec l'usager pour bien appréhender ses besoins et utiliser ses compétences. Alors, quand même un point très important, disposer d'outils informatiques et de ressources de qualité. Il insiste sur là, on est dans des grandes villes, hein, donc avec beaucoup de postes, etc., sur le fait qu'il faut que la technique suive. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il faut se doter des compétences nécessaires, il faut former le personnel, il faut l'emmener aussi dans ce mouvement, et il faut bien communiquer avec les groupes cibles, avec les partenaires. Merci
bon.
De votre attention.
Merci Annie, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Et je donne tout de suite la parole à Pascal Plantard qui va conclure. Un quart d'heure.
C'est comme je peux faire entre 10 minutes et 3 heures. vaut mieux que je borde un peu. Alors, quelques éléments quand même de remerciements. Je remercie vraiment fortement la BPI, les professionnels et Agnès en particulier pour ce travail, qui est un travail assez nouveau pour moi, puisque vous avez entendu parler de Marsouin plusieurs fois. Alors, je vais quand même expliciter. Je crains quand même que la notoriété de Marsouin ne soit pas aussi internationale que ça. Donc, pour ceux qui, malheureusement, ignoreraient ce qu'est Marsouin, Marsouin, c'est un réseau de recherche qui travaille depuis 2002 sur la question des usages des technologies. C'est un GIS, groupement d'intérêt scientifique, donc un réseau. Effectivement, il est aujourd'hui malheureusement unique en Europe, puisque beaucoup de réseaux avaient démarré dans les années 2000 et ont disparu petit à petit. C'est un réseau qui a été créé par le Conseil régional, à l'initiative du Conseil régional de Bretagne, pour évaluer sa politique numérique, mais qui s'est appuyé, contrairement à d'autres lieux, sur les universitaires qui ont répondu « oui, on veut bien évaluer, mais on veut aussi faire de la recherche ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, on regroupe les quatre universités bretonnes, trois grandes écoles, dont l'ENSAI, qui est l'école de l'INSEE. Donc on a un support en termes statistiques qui est très costaud. Et en gros, pour vous donner une idée, c'est 15 laboratoires de sciences humaines et sociales qui tous ont à l'intérieur des cellules qui travaillent sur les technologies. C'est en gros 200 chercheurs seniors ou juniors. Une des caractéristiques de Marsouin, c'est de croiser les méthodologies et de systématiquement, d'où la formule que j'ai sortie il y a quelques années et qui est assez répandue autour de ce qu'on fait, c'est l'idée que nous allons toujours au plus près des usagers. Pourquoi ? Parce que la caractéristique même du travail sur l'informatique d'abord, puis l'éthique ensuite, puis le numérique aujourd'hui,
c'est de se débarrasser de l'écho médiatique permanent qui entoure ces technologies, dont nous avons une grande tendance à prendre, à croire ce que l'on nous raconte comme la réalité. Or, quand on va très près de la réalité, on se rend compte qu'entre Saint-Martin-du-Pavail et Malmeux, il y a quand même des choses qui sont très parallèles, tout à fait interprétables de manière robuste. Et qui sont un peu différentes de ce qu'on nous raconte sur deux sujets dont je vais revenir tout de suite, la question de la génération Y et du digital native, et la question de la fracture numérique et du digital divide. C'est aussi pour ça que je préfère qu'on me présente comme anthropologue que comme sociologue, parce que je m'intéresse au temps long, en fait. Alors pourquoi je m'intéresse au temps long ? Parce que probablement je suis peut-être un peu plus geek que Gilda, parce que je vous livre ça comme ça. En Bretagne, la génération Y, elle a commencé en gros à la fin des années 50 avec l'arrivée de la télévision noir et blanc. Donc je suis un vieux représentant de la génération Y, vous voyez ce que je veux dire ? Et que dans l'ensemble de mon approche et de nos travaux, il y a cette question permanente qui taraude les professionnels et qui interroge les chercheurs, de la double socialisation. Si je dois vous lâcher un premier message un petit peu théorique autour de ça, évidemment que les technologies ne sont pas conçues par des ingénieurs mis en marketing par des grands groupes industriels et, comment dire, digérées directement par les usagers. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que chaque usager arrive dans un environnement socio-technique différencié, de la télévision noir et blanc à l'Internet diffus d'aujourd'hui, il y a quand même de légères nuances, mais que chaque usager a son propre parcours avec ça. Et si je blague un peu sur la question de mon appartenance à la génération Y, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir le parcours de Gilda que de découvrir le site de Pôle emploi, pour reprendre un exemple que tu as utilisé, immédiatement à 50 ans passés, à la suite d'une rupture professionnelle. Donc il y a toujours cette double socialisation, et vous allez être toujours aux prises avec ça. Ce qui fait que moi, je qualifie la génération Y de complexe d'Obélix. En gros, ce n'est pas parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits qu'ils n'ont pas besoin de potions magiques, d'éducation, de culture, etc., etc. Ce n'est pas le sujet de l'ouvrage, donc je laisse ça de côté. Et je reviens sur l'introduction. Vous savez qu'une bonne partie de l'évolution que vous allez retrouver dans le livre, de l'évolution, nous allons dire, des espaces qui vont s'appeler numérique aujourd'hui, mais qui s'appelaient multimédia au départ, hein, qui se sont appelés espace informatique. Je me rappelle des Catherine, Institut d'initiation à l'informatique individuelle du début des années 80. Vous voyez que ces histoires-là remontent loin. Ont été articulées autour d'une notion qui était la notion de fracture numérique. Alors, dans un ouvrage de 2011, on avait travaillé dessus en disant globalement, faut en sortir de cette notion. Non pas que les inégalités n'existent pas, bien au contraire, les inégalités existent, mais pour saisir les inégalités, il faut probablement dépasser la dimension idéologique de cette question. L'avantage, quand on fait de l'anthropologie des usages des technologies, c'est qu'on n'a pas besoin de gratter la terre pour avoir des documents, ils sont en ligne. Donc nous avons en ligne l'origine même du concept de « digital divide ». C'est un discours de Bill Clinton à Knoxville en 1996. Pourquoi je vous cite ce discours-là ? Il dit, en gros, on ne peut pas laisser une partie de la jeunesse américaine, sous-entendu noire, populaire, etc., de l'autre côté de la fracture numérique, de la digital divide. On est en 96, le web a été libéré par Tim Berners-Lee et Jack Kerouac, je dis libéré, donné à la planète entière en 92, hein, je vous resitue juste ça, et en 96, moins de 3% de la population mondiale est équipée, a accès à Internet. Donc nous commençons à réfléchir à quelque chose qui serait lutter contre une fracture qui n'existe pas, puisque 97% de la population est à l'extérieur de ça. Qu'est-ce que ça décrit ? Ça décrit que la fracture numérique, comme la génération Y ou les digital natives, font partie d'une construction de représentation, font partie d'un discours idéologique qui est lié au développement de l'Internet et qui va produire petit à petit la société de l'information et de la connaissance que nous connaissons aujourd'hui. Là encore, il faut dépasser le jugement. Celle que nous connaissons aujourd'hui s'est installée dans les années 50, a progressé à travers tout un tas de prises de position et d'innovations technologiques. Mais globalement, il faut quand même arriver à séparer ce que sont finalement ces noyaux de représentation, le jeunisme d'une part et une forme d'Internet global d'autre part. Rappelez-vous, toutes les technologies ont trois phases. Ça commence toujours par l'innovation, c'est-à-dire que chaque technologie, là, l'Internet qui arrive dans les années 90, on va nous la présenter comme la source de toutes les... Enfin, comme la chance extraordinaire de l'humanité. Relisez le Cyberculture de Pierre Lévy, où il nous est dit que la cyberdémocratie allait remplacer la démocratie, que nous nous déplacerions tous avec des patins à roulettes électriques dans les villes et que le problème écologique serait résolu, que la faim dans le monde aurait reculé, que la surpopulation aurait été réglée. Enfin, je vous passe tout le discours. Tout ça grâce à la société de l'information. Vous voyez qu'en 2017, on est loin du compte. Et que peut-être qu'en relisant ces textes-là, on se dit, attention, on a peut-être autre chose à faire que d'être finalement dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'accompagnement BA. Je pense que l'ouvrage que nous avons coordonné avec Agnès est plutôt dans le registre de l'accompagnement critique ou de l'accompagnement réflexif ou de l'accompagnement construit. Donc je finis un peu mes remerciements aussi. C'était un exercice très intéressant pour moi que d'analyser des textes venant d'horizons différents. Hein. Ne croyez pas que le texte est entièrement breton. Certes, vous avez deux Bretons à la table, mais il met en avant des expériences nationales et internationales assez vraiment intéressantes. Et je me suis trouvé dans la situation en fait d'analyser ça en même temps que nous continuons à poursuivre des travaux sur les questions d'inégalité éducative, les questions de médiation numérique. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, je crois que j'ai à peu près fait le tour autour de la question de la fracture numérique. Maintenant, je voulais revenir peut-être sur des notions assez importantes qui vont marquer l'évolution de la médiation numérique en bibliothèque depuis le début des années 80 quand même. Hein. Vous avez installé des clubs informatiques dans les bibliothèques en partenariat avec différentes instances locales ou nationales depuis avant même que le numérique ne soit arrivé, puisque je suis arrivé au numérique en même temps que vous, puisque je vous rappelle que c'est une transformation sémantique qui a à peine 5-6 ans, puisque avant on parlait d'Internet, d'éthique, des NTIC, de l'informatique, etc. Donc même en termes de vocabulaire, nous sommes contraints à changer de vocabulaire et vos lieux ont changé de dénomination, à la fois en fonction de ce vocabulaire, mais aussi en fonction des publics et des professionnels. Donc, premier élément vraiment important, où on en est aujourd'hui de cette question de la fracture numérique. En 2009, avec les Marsouins, on avait identifié que 65% des non-usagers de Bretagne déclaraient ne pas utiliser les technologies numériques parce qu'ils se sentaient isolés socialement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, nous sommes plutôt sur des logiques de fracture ou de rupture, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, qui sont multiformes, mais qui tiennent avec un fil rouge. Ce fil rouge, c'est l'isolement social. C'est le sentiment d'être légitime ou illégitime vis-à-vis de ces technologies. Nous sommes aujourd'hui à 84% d'équipés connectés, c'est les derniers chiffres Crédoc de 2016. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que dans les dernières années, nous avons gagné un point ou un demi-point, 81, 82, 83%, 84%. Ce qui veut dire que l'Internet est arrivé à maturité et qu'aujourd'hui, ce qui va être émergent, c'est la réalité virtuelle, c'est d'autres technologies. Et donc, ce n'est pas la même chose que de faire de la médiation numérique avec des technologies qui sont arrivées à maturité, que de faire de la médiation numérique avec des technologies émergentes. Aujourd'hui, nous avons à gérer, vous avez à gérer, des questions d'accès au droit, des questions de dématérialisation, des questions de, différentes représentations et de différentes cultures, de différents capitaux sociaux et éducatifs. Je vous donne juste un exemple. Dans nos derniers travaux, on a identifié que les gamins de 4e de SECPA étaient 4 fois plus équipés de smartphones que les gamins de 4e normal. Et dans les entretiens, pas mal de gamins nous ont dit « bah oui, mais mon smartphone, il n'a pas l'Internet ». Ce n'est pas que le smartphone n'a pas l'Internet, c'est qu'ils sont équipés de smartphones comme des bijoux de la modernité, en consommation des bijoux de la modernité comme ils peuvent consommer des marques, mais que derrière, la métaphore de ce que c'est que l'Internet, de comment on peut utiliser l'Internet, n'est pas prêt. Vous imaginez bien que les tiers-lieux, les ateliers numériques en bibliothèque ont du travail à faire là-dessus. Je ne vais pas revenir sur les professionnels, parce que tu en as parlé, la question des bénévoles, des professionnels de la médiation numérique qui se sont installés et ensuite des autres professionnels qui se sont à la fois préoccupés de ça et regroupés autour des médiateurs numériques, hein, la plupart du temps en médiathèque. Mais plutôt pour conclure sur la question, finalement, de la nature même de la médiation numérique en bibliothèque aujourd'hui, en bibliothèque, médiathèque, et peut-être tiers-lieu au sens large ou nouvelle dénomination. J'ai vu tout à l'heure, tu avais eu du mal. Moi aussi, j'ai eu du mal dans la conclusion. J'ai essayé de travailler là-dessus. On parle de Learning Center, on parle de Hackerspace, on parle de Fab Lab. Toutes ces nouvelles dénominations décrivent à la fois des traditions, des lieux, et s'installent de manière très différenciée en fonction des lieux. Je vous prends par exemple l'exemple du Fab Lab de Chemillé. Chemillé, c'est une petite commune du sud d'Angers. Eh bien, à partir d'un centre social, le Fab Lab de Chemillé est devenu l'immense garage où les papis et les jeunes bricolent, les uns avec leur machine-outil classique en fouillant dans les boîtes de boulon, et les autres avec leurs imprimantes 3D, le tout en communiant autour d'une notion absolument centrale, c'est qu'en bricolant ensemble, on apprend plein de choses sur son territoire, en intergénérationnel, sur des questions de valeur, etc., etc. Ce Fab Lab-là, il est unique parce qu'il est à Chemillé, comme dans certains lieux, les Fab Labs sont beaucoup moins imprimantes 3D et beaucoup plus activités de bricolage ordinaire. Donc il y a une réflexion à mener sur les lieux, et peut-être que cette réflexion, alors là je vous invite à évidemment lire le livre, on pourrait la caler sur ce que moi j'appelle les pouvoirs des usages, en référence à ce que Serge Tisseron avait travaillé il y a bien des années sur les questions des pouvoirs de l'image. Pour moi, les usages, la question qu'on m'a posée longtemps, et il m'a fallu du temps pour y répondre, c'est finalement les usages des technologies numériques, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique par rapport à d'autres usages, d'autres types d'environnements sociotechniques. Pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est le pouvoir de renforcement. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de renforcement ? C'est tous ces gens qui viennent me voir en me disant « Écoutez, est-ce que vous pouvez faire une intervention dans l'association de parents d'élèves ? Parce que nous, on est très, très inquiets sur Facebook. On voudrait savoir si vous êtes pour ou contre Facebook. » Ou alors les collègues qui viennent voir mon collègue Yann Leroux de Bordeaux, spécialiste des jeux vidéo, en leur demandant comment est-ce que vous pouvez faire une intervention pour soigner les jeunes des jeux vidéo, hein, absolument l'inverse de ce que vous a présenté tout à l'heure les ateliers de Saint-Aubin, où effectivement on voit que ça ne pose pas de questions aux jeunes. Ce sont des représentations. Et ces représentations-là, elles sont quand même excessivement manipulées par une logorée médiatique permanente qui, globalement, si on n'y prend pas garde, nous pousse à être pour ou contre. Les technos nous poussent à être pour ou contre. Or, les bibliothèques, traditionnellement, et les médiathèques aujourd'hui, sont quand même des lieux de questionnement des livres et de leur contenu, des activités de lecture et de ce que ça entraîne en termes de vie citoyenne et démocratique, et donc des technologies. Donc il y a quelque chose de particulier dans la médiation numérique en bibliothèque, qui fait qu'elle s'installe sur une tradition de médiation bienveillante, qu'elle n'est pas réductible à l'animation socioculturelle. Vous savez qu'il y a d'autres médiateurs numériques qui viennent d'ailleurs. Pour moi, elle n'est pas réductible à l'animation socioculturelle. Elle est très proche de l'animation artistique, de la médiation artistique et culturelle, certes, mais elle a du sens aussi parce qu'elle s'installe dans un lieu et dans une tradition particulière que tu nous as très, très bien décrit, qui est assez clairement un tiers-lieu, un espace où peuvent se déconstruire ces représentations, où on peut faire passer des élus, je réillustre avec ce que tu as dit, l'idée que on peut faire jouer les ados à FIFA dans le même lieu où ils vont rencontrer les parents et les amis des parents, et que faire jouer les ados à FIFA, ce n'est pas uniquement faire jouer les ados à FIFA, mais les ramener dans un lieu où va pouvoir se recréer du lien et où va pouvoir se réinvestir le territoire.
Donc la question... Pardon. Je m'excuse, Pascal, mais c'est vrai qu'on a vraiment...
Je finis sur les deux autres ou non?
Je ne pense pas. Je pense que... Bon. Non, c'était très intéressant, puisque tu as dit sur la... Vous voulez qu'on déborde, vous n'aurez pas le temps du tout pour les questions. Mais alors, en deux minutes.
Alors,
ils prennent le pouvoir.
Ils sont bien. Hein, bon. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de dévoilement. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de dévoilement? C'est très simple. Chaque fois que vous arrivez en face d'un environnement socio-technique, une partie de vous va se retrouver mobilisée. Et pas uniquement sur le plan cognitif ou instrumental. Qui aujourd'hui est capable de me dire s'il publie sur son mur Facebook une information parce que l'information l'intéresse, parce qu'elle vient d'un ami, parce que la photo est sympa, parce qu'on en a parlé, etc., etc. La plupart du temps, nous faisons ça en mobilisant finalement quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on croit ordinairement. Sauf que on est en train de parler entre nous. À partir du moment où vous êtes vis-à-vis de publics fragiles, de personnes en difficulté, de gens qui viennent de subir des ruptures professionnelles, familiales, etc., de gamins décrocheurs, etc., etc., vous allez vous rendre compte que ce pouvoir de dévoilement, il est encore plus fort et que, assez régulièrement, ils vont se mettre à nous poser des questions qui dépassent largement le cadre académique qu'on peut avoir ordinaire. Hein. Tu parlais d'initiation-formation. Et bien, dans plein d'initiations, beaucoup d'animateurs nous font remonter le fait qu'il y a des gens qui disent « Mais comment je vais m'en sortir vis-à-vis de tout ça ?» En fait, ça pose presque les questions, vous savez, les questions que posent les préadolescents, le sens de la vie, des choses comme ça. Et effectivement, le pouvoir de dévoilement, c'est quelque chose comme ça. Sauf que le pouvoir de dévoilement, nous l'avons théorisé pour les enseignants, nous l'avons théorisé pour les travailleurs sociaux, pour les éducateurs, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, vous avez un rôle particulier sur ce pouvoir de dévoilement. Vous avez cité tout à l'heure le travail d'Emmaüs Connect. Non, la fracture numérique ne recule pas si on prend la question des inégalités. Elle se déplace au-delà du socle des 84% et elle sera incompressible vis-à-vis de l'Internet. Ça veut dire qu'il nous reste quand même une frange de la population qui a absolument besoin de vous pour être accompagnée sur un certain nombre de limites institutionnelles. En gros, la numérisation des pratiques, des dispositifs administratifs, la numérisation de l'école, la numérisation de l'enseignement supérieur, etc., etc. Et que cet accompagnement-là, il n'est peut-être pas uniquement de votre ressort, mais il va être aussi du ressort de recréer des équipes, entre guillemets, je vais dire éducatives, ou de recréer des équipes sociales autour de la bibliothèque, ce qui est une nouvelle donnée que les témoignages des bibliothèques du nord de l'Europe décrivent beaucoup, c'est-à-dire que la bibliothèque reprend une espèce de sens, de lieu d'accueil ouvert dans lequel peuvent s'exprimer des choses qui ne vont pas s'exprimer ailleurs. J'avais un de mes premiers doctorants qui s'appelle Michael Lemintec qui avait fait une thèse sur la numérisation de Pôle emploi qui avait décrit que les demandeurs d'emploi les plus en difficulté étaient incapables d'accéder aux bornes et accéder au site de Pôle emploi. Emmaüs Connect confirme ça encore plus aujourd'hui. Et que ces demandes-là se déplaçaient toutes dans les espaces publics numériques et une grande partie dans les espaces publics numériques en bibliothèque et une encore plus grande partie dans le seul endroit où il y a des espaces publics numériques en milieu rural, c'est les médiathèques. Et effectivement, vous voyez bien qu'on est loin du métier de bibliothécaire traditionnel, on est dans autre chose. Le dernier point, et qui est un point vraiment fondamental, et le dernier pouvoir pour moi des usages des technologies, c'est le pouvoir de lien. Alors pourquoi le pouvoir de lien ? Parce que une des idéologies positives, on va dire, les plus fortes de la construction de l'Internet et des technologies contemporaines, c'est le village planétaire, c'est la mise en réseau. On entend à longueur de temps parler de biens communs, de travail coopératif, de travail collaboratif, etc. Assez paradoxalement, l'Internet a redonné du sens. On pensait que la mondialisation allait nous extraire dans des espaces dans lesquels on se perdrait, ce qui est une partie vraie, pour une part vraie en tout cas. Mais dans l'autre sens, effectivement, l'Internet a donné énormément de sens au territoire, voire au micro-territoire. On ne dénombre plus les opérations transgénération où des anciens, la plupart du temps en isolement, placés en maison de retraite, rencontrent des jeunes, la plupart du temps en décrochage scolaire, pour échanger sur le territoire, les photos, les souvenirs, etc. etc. Et énormément d'initiatives sont dans ce registre-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que globalement, ce pouvoir de lien-là a un sens particulier dans les bibliothèques et dans les espaces numériques à l'intérieur des bibliothèques. C'est que finalement, les cultures historiques plus classiques, plus traditionnelles, la grande hypothèse de la superposition des différentes révolutions, l'hypothèse de la galaxie Gutenberg, du livre au numérique, il y a du lien, sauf que ce n'est pas le cas partout. Regardez ce qui se passe dans les écoles. Les ateliers numériques ne sont pas autant intégrés que ça à la question du livre et des programmes. On a encore des choses très, très rugueuses vis-à-vis du système scolaire aujourd'hui. Dans les bibliothèques, c'est à côté. Les photos étaient tout à fait significatives. C'est-à-dire que le livre peut être ouvert en même temps que la console de jeu, en même temps que la tablette. Et les bibliothèques du Nord ont poussé ça au bout avec des logiques d'open space, avec des logiques de travail collectif, avec des logiques d'accompagnement des publics qui arrivent. Tu parlais tout à l'heure du pair à pair, tu parlais tout à l'heure des bénévoles, etc. Et il me semble que ce pouvoir de lien, c'est vraiment très, très important. À une seule condition, c'est qu'on arrive à protéger vos espaces, on va dire, des enjeux de pouvoir, des enjeux de consommation qui circulent tout autour de nous. Tout à l'heure, je vous ai dit, Marsouin est unique. Nous sommes le représentant français du World Internet Project, qui est la fédération mondiale des labos publics des laboratoires d'usage. Pourquoi je vous redis ça en conclusion ? Parce que je ne crois pas du tout aux données de Facebook pour étudier Facebook. Je ne crois pas du tout aux données de Google pour étudier Google. Il nous faut des données qui soient extérieures. Et dans le registre des lieux, dans le registre des pratiques, il faut absolument arriver à maîtriser. Alors, nos collègues du Nord sont vraiment très, très précis là-dessus. Ce que Dominique Cardon, sur les réseaux sociaux, appelle le clair-obscur. Qu'est-ce que c'est que le clair-obscur ? C'est l'endroit où on va se positionner loin du jugement, enfin un peu plus loin du jugement, par exemple Pôle emploi, les dispositifs, l'école pour les plus jeunes, un peu plus loin du jugement, dans un lieu où on va avoir des degrés de liberté, de choix, de goût, d'activité élective, comme Anne Barrère en parle, particulièrement pour les adolescents. Et ces lieux-là, visiblement, enfin dans le texte, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire, dans le texte, les témoignages vont presque tous dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une condition à faire en sorte que les tiers-lieux participent à l'accompagnement de cette transformation numérique au sein des bibliothèques, c'est d'arriver à protéger, finalement, ces espaces-là comme des espaces de culture, d'échange bienveillants, au-delà des enjeux, on va dire, commerciaux, voire des enjeux de pouvoir qui circulent autour des technologies numériques. Merci.
Merci beaucoup, Pascal. Je ne sais pas si on a un peu de temps quand même pour...
Non. Bon. En fait, vous aurez les réponses à vos questions en lisant le livre. Ouais.